Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de l'Occident ce soir pour une émission qui s'annonce dense car nous allons la diviser en deux parties. Une première partie où nous allons parler d'art et de photographie. Voilà, un sujet qui va nous permettre d'oublier quelques instants l'actualité un petit peu lourde de ces derniers jours. Et nous reviendrons justement dans cette actualité lors de la seconde partie de l'émission. En préambule de cette émission, je vous rappelle que si nous pouvons produire des émissions de qualité, c'est grâce à vous, chers auditeurs, car nous ne percevons pas de subventions de l'État. Nous n'usons pas de publicité afin de garder une liberté totale. Et c'est pour cela qu'il faut donner à Radio Courtoisie, car c'est notre seul moyen de subsistance. Je vous annonce également, chers auditeurs, que ce sera pour moi la dernière émission dans le Libre Journal de l'Occident, car je dois me consacrer à bien d'autres occupations. Voilà, donc je vous laisserai entre les mains de François-Xavier qui reprendra l'émission et qui le fera de façon tout à fait excellente, comme vous le savez. Donc je ne suis pas inquiet, vous êtes entre de bonnes mains. Et voilà, nous nous reverrons certainement sur ces ondes ou sur d'autres à l'avenir, car il y a beaucoup de projets. Alors François-Xavier, comme d'habitude, vous êtes avec nous, même si vous êtes en Italie. Bonsoir François-Xavier.
Absolument. Bonsoir Guillaume-Antoine.
Alors François-Xavier, écoutez, je vous laisse la parole, je vous laisse présenter le sujet de la première partie et puis nos invités.
Très bien. Alors écoutez, vous savez que dans cette émission, on aime aborder des sujets, donc dans cette émission, dans le Libre Journal de l'Occident, eh bien on aime parler de tout ce qui a façonné l'Occident. Donc, écoutez, on vous parle beaucoup de politique, de géopolitique, évidemment, puisque l'actualité nous attire régulièrement vers ces sujets-là. Mais il nous importe de parler de tout ce qui nous a construit, de tout ce qui continue à nous construire et de tout ce qui nous constituera à l'avenir. Et donc, pour ça, on a parlé philosophie, on a parlé humour, on a parlé littérature. Et il nous semblait logique d'aborder un sujet ô combien important dans le monde artistique, dans le monde culturel et pour notre civilisation, c'est la photographie. Donc c'était un projet qui commençait à mûrir et en fait on a la chance d'avoir dans notre entourage des gens absolument géniaux dans ce domaine-là, dans plusieurs domaines, que ce soit, on va détailler juste après, mais dans des domaines de production photographique, artistique, dans des expériences un peu plus originales au Proche et Moyen-Orient, mais également dans la formation, puisque vous allez le voir avec nos invités, certains sont aussi engagés dans la transmission de la flamme dans ce domaine-là, pour que continue à vivre l'art photographique. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir en plateau Anne Russocchi, qui, en plus de ses activités florissantes de photographie de mariage, est elle-même engagée dans la formation des futures générations et dans le développement des nouvelles méthodes de captation d'images, puisque on s'écarte un peu de la photographie, il y a du drone, mais elle nous détaillera un peu tout ça. Bonsoir Anne.
Bonsoir François-Xavier.
Alors également avec nous ce soir depuis Zoom, nous avons Barbara Violet, que je connais de longue date, bien que nous ne soyons pas si vieux, mais tout de même, et que j'ai connu particulièrement sur le terrain en mission, puisque Barbara nous l'expliquera, elle est partie avec SOS Chrétien d'Orient faire de la photographie sur le terrain. Ces œuvres sont toujours accrochées dans nos bureaux aujourd'hui. Et en rentrant en France, évidemment, elle avait du mal à garder son taux d'adrénaline au minimum. Et donc, Barbara a continué son engagement actif, notamment lors des Gilets jaunes, avec des clichés chauds du terrain, et poursuit aujourd'hui son activité. Bonsoir, Barbara.
Bonsoir, François-Xavier. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Anne.
Et donc, pour rester sur ce thème de l'engagement et des engagements un peu insolites, nous avons l'immense Catherine Cooper avec nous ce soir, qui est née dans la ville dans laquelle j'ai fait mes études, à Grahamstown, en Afrique du Sud. qui a commencé la photographie là-bas, puisqu'elle a fait un superbe reportage photo sur les populations blanches d'Afrique du Sud. Et puis, cette dernière a eu une carrière marquée dans la photographie d'art, très, très, très connue pour ses photos qui ont été exposées et qui sont toujours exposées. À de nombreuses reprises, qui est partie elle aussi avec SOS Chrétien d'Orient, qui a publié des ouvrages photographiques magnifiques en Irak, mais aussi en Syrie, et qui a continué son engagement au Kosovo, puisque j'ai eu le plaisir de la retrouver dernièrement à une magnifique exposition de Solidarité Kosovo à Paris sur les familles du Kosovo, et qui enseigne également. Donc voilà, donc bonsoir Catherine.
Bonsoir, bonsoir François-Xavier et Barbara, que je suis ravie de retrouver ici, et Anne, que je ne connais pas. Merci de cette invitation.
Avec grand plaisir. Alors, écoutez, on va commencer avec vous, Catherine, tant qu'on y est. Comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça vous est venu, la photo, comme ça, un matin, vous vous êtes dit, ce qui m'entoure, personne ne le voit dans le monde, il faut que je le montre, ou c'est la passion de l'art, tout simplement?
Eh ben non, mais je suis tombée dedans, je suis tombée dans la marmite, car mon père est photojournaliste, enfin journaliste d'abord, et ensuite photojournaliste, et il a été au Zimbabwe pendant la période début années 2000, où il y avait les fermes qui ont été reprises par Mugabe, les fermes des Blancs, la violence qui s'en est suivie. Donc il a documenté tout ça. Enfin, ça, il y a eu des violences, hein, contre sa personne aussi, avec l'armée. Enfin, c'était très chaud. Il a fait des photos très fortes. C'était juste à la fin de l'Argentique. Et il m'avait envoyé tous ses négatifs. J'ai ses négatifs dans une malle en métal pour les protéger. Ensuite, il est passé en numérique. Mais donc, c'est pour cette raison-là que j'ai toujours eu les mains dans la chimie, parce qu'il avait la chambre noire à la maison. Donc, j'ai appris à développer, à tirer, et je suis tombée dedans, à la consternation de mes profs à l'école, qui, en sachant que j'allais faire la photographie comme métier, étaient absolument catastrophés. C'était les sœurs au Zimbabwe qui ne comprenaient absolument pas pourquoi une fille qui avait des possibilités aussi nombreuses et brillantes que moi allait se sacrifier à faire ça. Et parfois, dans ma vie, je me suis posé la même question. Mais bon, une fois quand on est lancé dedans, on ne peut plus faire marche arrière. On fonce, on continue.
Merci beaucoup. Et du coup, je vous laisse enchaîner, Barbara, votre histoire.
Moi, j'ai, alors, moi aussi, j'ai eu un père qui était beaucoup dans la photographie. Il nous photographiait, nous, enfants. Mais au-delà de ça, moi, j'ai perdu mon père en 2009, j'avais 18 ans. Et en fait, il se trouve que je me suis retrouvée avec l'appareil photo de mon père entre les mains. Mais j'aimais ça déjà avant. Mais bon, voilà, j'avais 18 ans, je ne savais pas trop. Et j'ai fait un premier voyage en Sicile. J'ai fait le tour de la Sicile en train, etc. Et j'ai photographié. Et en fait, moi, je pense que tout ça est aussi lié à la psychologie, à la sensibilité. Et en fait, quand on est assez sensible, on a un art qui nous est lié. Enfin, moi, je pense que Dieu m'a donné un talent, parce que je n'ai jamais appris vraiment à composer une image, mais je le fais naturellement parce que je vois des choses. Et donc, j'ai récupéré l'appareil photo de mon père. Et donc, du coup, je me suis mise à photographier. Et ma mère m'a dit un peu plus tard, tu devrais en job d'été chercher quelque chose. Et m'a dit, fais des photos de mariage. Je me suis lancée, finalement. Enfin, j'étais pas si mauvaise que ça. Et en parallèle de ça, j'avais aussi une espèce de conscience politique qui naissait. Enfin, voilà, et en fait, finalement, quoi de mieux que de documenter pas forcément que la politique d'ailleurs, mais l'humain, l'humanisme à travers la photo. Et c'est vrai qu'en fait, je m'y retrouve. C'est-à-dire que je m'émerveille d'un rien. C'est là où ma foi est assez reliée avec mon amour de la photographie et ma technique. C'est que je vais m'émerveiller d'un frémissement de soleil dans des feuilles et qui va faire une ombre sur le sol. Je la photographiais avec l'appareil photo de mon père, parce que voilà, ça voulait dire quelque chose. Et donc après, je me suis, voilà, évidemment qu'il y a eu après les manifs, les visages, photographier la colère, la tristesse, l'amour. Ouais, c'est ça. J'ai pris goût à ça et j'en ai fait mon métier. parce que ouais, parce qu'en fait je peux plus vivre du tout sans, et je trouve qu'en fait c'est une véritable écriture en fait, et voilà, enfin il y a ce rapport avec la lumière, c'est de l'émerveillement en fait à l'origine, et puis bah la symbolique d'avoir eu l'appareil photo de mon père entre les mains, et ouais, j'ai pas été et bon, je savais pas trop ce que je valais, mais mon entourage m'a dit t'as un truc, continue, et après bah, voilà, après ça a fait son chemin, et en fait documenter, je vais pas dire que c'est là où c'est pas compliqué à faire, c'est que on voit des choses et c'est très intéressant de figer l'image en fait, et d'en faire dire pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Bon bref, mais voilà, c'est aussi une histoire quand même filiale à la base.
Alors ça, c'est le sujet, je pense qu'on pourra approfondir après ce que dit l'image, est-ce qu'elle parle, comment elle parle, est-ce qu'elle reste ancrée dans une réalité, est-ce qu'elle dit plus que ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu après avoir donné la parole à Anne Russocchi. Alors vous, il me semble que ce n'est pas forcément exactement un schéma de transmission filiale, la photo.
Eh bien, à la base, si, quand même, ça va être très original, mais j'ai appris la photographie grâce à mon père, mais qui, grâce à Dieu, va très bien, et je n'ai pas hérité de son appareil, hein, car il s'en sert toujours.
Faut dire.
Et puis, en revanche, même si c'est le côté artistique qui m'a parlé en premier, on va dire que j'ai été beaucoup plus passionnée par la tech. C'est l'amour de la tech qui m'a lancée dans la photo, des boîtiers, du numérique particulièrement, et d'essayer de chercher toujours les meilleures technologies, à quoi elles correspondent, qu'est-ce qu'elles font, et l'amour de la physique, de l'optique et davantage la physique de la lumière qui m'a intéressée plus que les sujets de prime abord. Et c'est cet amour de la technique qui m'a amenée à mettre quelque chose au bout de l'objectif et à analyser sociologiquement, mais dis donc, c'est quoi ce qu'il y a au bout de l'objectif et qui potentiellement peut donner un salaire. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique et une analyse peut-être beaucoup moins artistique. Bon, maintenant, évidemment, la phase artistique est arrivée par la suite à force du métier. Mais voilà, pas du tout la même approche, pas du tout le même but recherché à la base, au final le même métier, puisque je fais également de la photographie de mariage comme Barbara, mais également beaucoup de photographie dans des milieux corporate un peu plus sensibles, comme pour la défense ou l'armement ou l'armée. Essentiellement.
Alors c'est ce que j'allais dire, j'allais embrayer là-dessus, parce qu'en effet, tout le monde a des expériences très complémentaires ce soir, et je pense que c'est ce qui va être enrichissant. Même si du coup vous êtes 2 sur 3 à faire de la photo de mariage et 2 sur 3 à être parti avec SOS Chrétien d'Orient pour l'instant, il y a quelque chose que vous partagez quand même tous les trois, c'est que vous avez photographié des milieux très différents. Vous n'êtes pas resté sur un seul type de sujet, que ce soit Katharine, me semble que Katharine a dû travailler avec des mannequins, avec des professionnels, ou en tout cas avec des muses pour travailler. Bon, Barbara également, les expériences en mission et autres. Et en fait, comme vous dites, on va rester sur vous, Anne. Vous avez fait de la photo de mariage, en effet, et puis pas forcément uniquement des mariages ou des sujets, parce que vous faites aussi de la photo de famille, pas forcément dans les mêmes milieux, dans les mêmes circonstances, mais également de la photo plus liée au monde de la défense. Et donc, en fait, toute cette différence sociale que vous captez, que vous figez, à qui vous donnez une âme durable par la photographie, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre travail et qu'est-ce que ça apporte à votre art, en fait qu'est-ce que vous avez réussi à immortaliser comme donnée de notre temps?
Alors, plusieurs questions en une. Alors, je vais essayer de résumer un peu. Qu'est-ce que ça apporte? Mais en fait, on a la chance, quel que soit le sujet qu'on photographie, de faire partie de l'histoire et de pouvoir figer et transmettre aux générations futures, là, tel jour en 2026, il s'est passé ça, qu'on le veuille ou non. Donc déjà, on est témoin de son histoire et de ce qui se passe, mais surtout, on analyse sociologiquement ce qui va se passer et on va transmettre un certain regard. Parce qu'on le veuille ou non, un photographe transmet ce qu'il voit en fonction de ce qu'il est. Et le journaliste qui va dire qu'il a un cliché absolument neutre, n'est pas conscient qu'en fait c'est complètement faux. On n'est jamais neutre dans ce qu'on prend, on n'est jamais neutre dans ce qu'on transmet, car on est forcément dépendant de notre propre histoire, de notre propre regard et de notre version sur les choses. Donc la neutralité n'existe pas. Et donc quand on prend des clichés dans un événement aussi, je sais pas, politique et neutre que peut être, je sais pas moi, le gala de l'armement français, en fait on va forcément poser un regard amical, inamical ou surpris, admiratif, peu importe. On va poser un regard qui se veut historique, qui se veut immortalisant, mais qui va être quelque part dans le sens de sa propre vision des choses. C'est même, je dirais, l'avantage de la presse, c'est qu'il y a une pluridisciplinarité, un pluriregard sur les choses, hein, parce que bah, y a plusieurs maisons de presse, plusieurs idées. C'est ça qui va faire la richesse, en fait, du fait qu'il y a plusieurs photographes, plusieurs mondes. Et plusieurs avis, mais dans mon métier, je suis rarement confrontée à d'autres avis que le mien, en tout cas, ou de mes collègues, qui, évidemment, quand on est employé pour l'armement, faudrait être fou pour ne pas employer un photographe qui soit à peu près dans vos idées et dans le respect de l'institution. Il se trouve que là, c'est ma société qui est en gage et on est tous... évidemment, personne n'est antimilitariste. Donc, on va être témoin d'une histoire, des personnalités qui se rencontrent, d'une certaine élite sociale qui va parler des sujets, qui va... avoir tout un comportement professionnel, on va en être témoin avec un certain regard admiratif, en tout cas, et qui va, on va dire, immortaliser dans l'histoire tous ces personnages qui se rencontrent. Ça va être le cas, je pense, pour n'importe quel photojournaliste qui va immortaliser un mariage. En général, on respecte ses clients, ou alors, en tout cas, je le souhaite pour mes confrères qui respectent leurs clients et choisissent des clients qu'ils admirent et respectent, mais on va immortaliser une famille dans leur contexte social, dans leur monde, dans leur religion, pouvoir analyser l'impact que la religion, que l'origine sociale va avoir dessus, dessous. Et tout ça, on va pouvoir le transmettre de la manière la plus neutre, ou pas d'ailleurs, qui soit. Donc, quelle importance ça a ? C'était la question initiale. Ben, non, c'était pas ça la question, c'était je vais perdre les mots.
Qu'est-ce que c'est l'importance pour notre monde, en fait, parce que c'est vrai qu'on est un monde qui passe tellement vite que qu'est-ce que ça nous apporte à notre société qui, demain, ne sera plus la même qu'aujourd'hui à 21h47 ?
Ben, ça va apporter le témoignage de l'histoire. Après, peut-être que mes deux autres collègues vont apporter une pierre à l'édifice dans cette analyse.
Non, mais ce qui est intéressant déjà, ce qui ressort directement là de ce témoignage, c'est qu'effectivement... on pense que prendre une image, bah, finalement c'est une image, donc c'est figé, on fige un instant, mais effectivement rien que le fait de sélectionner le fait qu'on va immortaliser telle personne dans tel dîner sous tel angle, c'est déjà un choix éditorial, j'ai envie de dire, c'est déjà effectivement un regard qu'on pose. Donc les autres invités vont nous donner également leur avis là-dessus. Est-il possible, je connais la réponse, mais c'est pour lancer un petit peu ce sujet, est-il possible d'avoir une image, ou en tout cas de tendre vers l'objectivité de l'image ? Est-ce que c'est possible d'être reporter neutre, de se dire voilà, je vais partir sur faire un reportage sur un sujet, un reportage photographique, et voilà, je vais essayer de prendre en photo toute cette réalité sous les différents angles, ou bien on est forcément biaisé et il est complètement impossible d'avoir un regard objectif.
Ah, du coup, pour qui,
Guillaume ? Eh ben, commençons par Barbara.
Alors, moi, je pense que la sensibilité n'a pas de couleur politique. Parce que je vais donner plusieurs exemples. Dans un mariage, moi, je vais être attirée par une dame, je ne sais pas pourquoi, je vais me retrouver au milieu de 400 invités, et inconsciemment, je vais toujours me retrouver vers la même dame. Enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est de la sensibilité artistique. Et pareil en manif, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très, très important quand on est photojournaliste et qu'on a le devoir d'être témoin de l'histoire, justement. Je vous donne un exemple pendant les Gilets jaunes. Alors, quand on est photographe de manif, ou d'humanitaire pas trop loin du front, enfin, on a envie de photos sensationnelles. C'est vrai que moi, les Gilets jaunes, ce que j'ai adoré, c'est évidemment, c'est un espèce de cocktail de bombes lacrymo dans un froid avec de la pluie, des reflets incroyables et beaucoup de violence. Mais je me suis interdit de ne photographier que ça, et je voulais aussi photographier des visages. Et les Gilets jaunes, ce qui était magnifique dans les Gilets jaunes, c'est qu'il y avait toutes les couleurs politiques, tous les métiers, tous les caractères, tout ce que vous voulez, et comme les manifs d'ailleurs contre la loi santé ou trucs comme ça, moi je photographiais autant l'antifa, et en fait un jour j'ai une amie qui m'a dit je sais pas comment tu fais, t'arrives à rendre beau les antifas, et parce que
il faut
en fait,
du talent,
je les regarde, ouais, non, mais
je peux garder comme transition.
Non, mais oui, pardon, j'aurais pas dû parler de ça tout de suite, mais enfin voilà, par exemple manif des Gilets jaunes, moi j'ai fait un portrait magnifique d'un type, il avait une clope mâchouillée de je ne sais pas, enfin ça devait faire 5 heures qu'il mâchouillait son clopio. C'était immonde, et à côté de ça il avait son petit bonnet, enfin on sentait, bon, il était pas très propre, il était vieux, et à côté de ça il avait un drapeau français magnifique, son gilet jaune. J'ai fait ce portrait là et c'est marrant parce que je l'ai photographié tout à fait anodinement, et pour moi c'est le visage des Gilets jaunes, et à côté de ça j'ai photographié Enfin ouais, le peintre en bâtiment, comme j'ai photographié le curé en soutane, comme j'ai photographié la bagarre. Et je pense que ce devoir-là, il est, quand on est photojournaliste, en tout cas, on doit penser éditorial, on doit penser histoire. Mais comme dans un mariage d'ailleurs, nous racontons une histoire. Donc en fait, je sors d'une manif parisienne, je peux pas être partout, mais je ne peux pas omettre une information parce que je suis là pour informer. Alors moi, j'aime le faire dans l'art. J'ai compris en travaillant dans une rédaction qu'en fait, une photo de presse n'est pas forcément une photo d'art. Il faut qu'elle raconte où nous sommes. Qui est-ce, enfin bref, le truc classique de où, quand, qui, pourquoi, comment, c'est de mettre ça dans une et même photo. Mais si on a la chance de publier un reportage complet d'une quinzaine de photos, eh ben il faut l'arrière de la manif, les débordements de la manif, des beaux paysages, trois pancartes qui disent, enfin voilà, il faut tout raconter, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est vrai que je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas du tout pour me vanter, mais je pense que j'arrive à mettre de la beauté même dans un visage d'antifa ou dans un visage de policier qui me braque. Moi, j'ai fait une photo d'une ligne de CRS et qui pointe littéralement le
canon de la flashball.
Voilà, le flashball sur moi. Je l'ai chopé au bon moment parce que c'était pas mes potes, mais je les ai et le vis et on voit le regard du flic. Et on aime le flic. Il y a de l'humanité en fait. Moi, c'est mon approche. Et pareil en Syrie. Enfin, j'ai l'impression que j'ai cette approche partout où je photographie, en fait. Et moi, j'aime beaucoup aussi la photo de rue pour ça. Enfin, moins facile, la photo de rue, mais j'aime beaucoup photographier aussi des gens qui ne me ressemblent pas. Voilà. C'est ma façon de répondre à la question. Je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais voilà.
Très bien pour enchaîner sur Catherine Cooper, parce que pour votre travail sur les Blancs africains, vous êtes lauréate du prix photo Marc Laudrette de La Charrière de l'Académie des Beaux-Arts et par la suite en effet vous êtes partie en Syrie, en Irak, on s'est croisé là-bas pour la première fois, mais c'est en Syrie vraiment que vous avez fait ce gros travail à être une des premières à rentrer dans Palmyre libérée et à rester 6 semaines à Alep, et ça c'est ça qui est intéressant pour notre question, à rester 6 semaines à Alep, là où beaucoup de photojournalistes français viennent 3 jours parce que leur rédaction ne veut pas les payer plus et repartent très rapidement. Vous avez voulu prendre ce temps long. Donc vous avez voulu prendre ce temps long pour rester avec les gens. Et pourquoi en fait ? Pourquoi vous voulez rester aussi longtemps pour prendre des photos à Alep ?
Oui, alors c'est intéressant le point de vue de Barbara parce que après avoir entendu la question, la première réaction, c'est que une photographie ne peut pas être objective. Enfin, c'était ça parce que ça a été dit. Je crois que c'est Barbara qui l'a dit tout à l'heure ou Anne, je ne sais plus. Mais on vient avec notre bagage, notre regard, notre éducation, nos préjugés. Tout cela est en nous. Mais dans le cas de la Syrie, en tout cas, moi, c'était une espèce de d'éveil et j'avais envie de voir. Donc, je suis allée et je crois assez neutrement parce que j'avais vraiment cette envie de... j'allais voir si mon intuition était vraie ou si ça allait être bouleversé par les faits sur place. Si ça... Enfin, je suis allée absolument neutre et je crois avoir... était objectif. Après, je n'ai pas photographié de terroristes, par exemple. Donc là-dedans, voilà. Est-ce que c'est un regard objectif, une photo? Oui et non. Enfin, c'est très complexe.
En fait, tu choisis tes sujets, Catherine. En fait, on choisit la neutralité. Oui. Elle résulte là où en fait on choisit ses sujets. On choisit de couvrir telle chose. Oui. C'est pas dans la prise de la photo en elle-même. Mais c'est dans le choix de ce qu'on va prendre en photo, tout bêtement,
là,
en fait.
Là, je te suis, c'est que je suis, je peux être, je vais voir quelqu'un dans une foule et je vais voir une lumière dans cette personne et j'ai besoin de prendre en photo cette personne. Alors, peu importe que ce soit quelqu'un du bon côté, du mauvais côté, cette personne-là, je dois la prendre en photo parce qu'elle a quelque chose en elle et ça dépasse tout. Et je m'en fiche, en fait. Et après, je vais avoir l'envie de connaître son histoire. Mais d'abord, c'est elle. Oui, donc, je te suis absolument là, Barbara.
Et là, du coup, vous qui transmettez aux nouvelles générations, qui avez maintenant une longue expérience dans plusieurs domaines sur la photographie et sur les sujets dans des situations complexes, parce que faire une photo, je pense qu'en fait, est-ce que ça va être déjà plus complexe peut-être de faire une photo posée en couple après 30-40 ans de mariage pour saisir le cliché parfait que de réussir à prendre deux jeunes qui s'amusent en mariage, même s'ils sont en train de bouger. Je pense qu'il y a une attention aux détails qui est peut-être pas le même. Et comment vous transmettez ça aux jeunes dans les cours que vous donnez, dans l'école que vous soutenez?
Alors déjà, je leur apprends que la composition neutre n'existe pas. Si on s'imagine prendre un appareil et prendre en photo quelque chose en disant tiens, je prends la photo et là je vais rebondir sur ce que disaient mes collègues en le contredisant un peu, mais j'adore la contradiction. Prendre en photo un sujet, c'est jamais neutre parce que la manière dont on va composer l'image, est-ce qu'on va la prendre par-dessus, par-dessous, quelle focale on va choisir, quelle couleur on va mettre dessus, en fait, rien n'est neutre. Et si c'est entre guillemets neutre, c'est l'inconscient qui parle. Mais chaque composition a des données techniques et répond à des lois auxquelles on est tous, enfin des lois de la composition auxquelles on est tous inconsciemment soumis, parce qu'en fait, on dépend de ce qu'on voit, de toute la société qui va nous montrer qu'une composition, en Europe par exemple, celui de gauche à droite, que la gauche ça va être le passé, bon je dis des tas d'exemples comme ça, hein, la droite ça va être l'avenir, tout ça, bref. La manière de composer les choses et de se placer par rapport au sujet, en fait, on dit déjà long. Donc prendre en photo, je sais pas moi, un couple qui a 60 ans de mariage, à partir du moment où je vais poser un regard, que je le veuille ou non, hein, qui va être admiratif de ce couple, je vais déjà les mettre en valeur de par ma posture, de par ma focale. Alors que si je vais prendre en photo quelque chose que je vais beaucoup moins apprécier, ce qui arrive en fait dans les prestations, alors pas forcément de mariage, mais ça arrive, on voit déjà que la photo, elle n'est pas prise pareille. Même avec la même focale, le même appareil, le même réglage, on ne va pas se placer pareil, on ne va pas la traiter pareil. Et quand on a été malheureux à un mariage, que ça s'est mal passé ou qu'un des invités, ça arrive, a bu trop d'alcool, a été très lourd avec la photographe, bon, bah, cet invité-là, bizarrement, il va être un peu moins beau sur les photos. Et ce n'est pas moi qui me dis, tiens, je vais le rendre moins beau parce que c'était pas la meilleure personne du monde. En fait, c'est à l'analyse des choses, parce que moi, je bosse pas toute seule, je bosse dans une société avec d'autres photographes, on relie énormément le travail les uns des autres. Et c'est ça qui permet de voir ces choses-là, d'avoir un collègue qui dit, dis donc, lui, c'était pas ton pote. Alors que moi, j'avais essayé d'être la plus neutre possible, et moi, je vais répondre, ah bah effectivement, c'était lui le gros lourd, machin. Mais en fait, souvent, ça arrive, ou même quand c'est vraiment des gens qu'on va respecter, il va vraiment avoir l'inconscient qui parle, et moi, je vais dire, bah ouais, mais là, ta composition, elle est bancale, le truc il est pas stable, tu l'as pris au mauvais moment, tu as choisi la photo, il fait une sale gueule. En fait, rien n'est anodin et rien n'est neutre dans le choix que le photographe avait fait, même s'il en avait l'impression, même s'il avait l'impression de couvrir l'instant. Donc, qu'est-ce que je transmets à la jeune génération de connaître par cœur les compositions, de savoir exactement qu'est-ce qui dit quoi, quelle couleur dit quoi, quelle harmonie de couleur dit quoi, quelle forme dit quoi, quelle focale dit quoi, comment mettre en valeur son sujet, comment ne pas le mettre en valeur si on veut ne pas le mettre en valeur. En fait, tout ce qu'on va leur transmettre, c'est d'apprendre. Si je peux me permettre le terme, à tout manipuler, exactement comme dans le marketing, pour pouvoir derrière être au meilleur service de son client. Si c'est dans le mariage, ben là on a envie de mettre en valeur tout le monde, mais il faut savoir les bons outils pour le faire, choisir les bons endroits, la bonne lumière. Si on est dans le politique, quel que soit, parce qu'on a des élèves qui font tout type de photographie, que ce soit sportif, journaliste, on en a plein, d'apprendre justement cette neutralité, cette focale, cette manière de surtout pas bouger d'un sujet à l'autre, enfin, j'en sais rien, il y a énormément de manières différentes. Mais leur apprendre à pouvoir tout manipuler pour pouvoir se placer en connaissance de cause le plus neutralement possible s'ils le veulent ou le moins possible s'ils veulent mettre en valeur leur sujet.
Est-ce que ce que j'entends là et ce que je comprends, c'est assez intéressant, c'est que finalement, lorsqu'on prend une photo, la neutralité est mise à mal en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a déjà le choix du sujet qu'on va faire, le choix de prendre telle personne en photo qui est déjà est un premier biais sur la réalité qu'on regarde. Et ensuite, effectivement, il y a l'aspect technique, c'est-à-dire est-ce qu'on va comment va être la luminosité, on va prendre cette personne-là à tel moment parce que il se situe un petit peu dans l'ombre et que à ce moment-là ça va nous faire l'image. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, est-ce que à la fin du reportage, on regarde les photos et finalement, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une couleur, par exemple, de l'événement qu'on a voulu rapporter. Les photos vont nous donner une image globale de ce qu'on a vu, mais qui sera forcément une image biaisée puisque si on a pris, par exemple, que des photos de personnes qui étaient à l'ombre, alors que si ça se trouve en fait il y avait un grand soleil, ça va donner comment dire, un biais, ça va déformer en réalité l'événement, ou en tout cas ça va ne donner qu'un point de vue. Est-ce que, Anne, je vais vous faire réagir là-dessus, est-ce qu'il y a une éthique du photographe? Est-ce qu'il y a une déontologie? C'est-à-dire, je vais rapporter mon événement. Est-ce que finalement, en tant qu'artiste, je suis totalement libre et je veux donner mon regard? Ou est-ce que finalement, j'applique une espèce de déontologie qui veut que je montre la. Je suis le, comment dire, l'apporteur d'une réalité? En fait, c'est les deux, c'est ce que vous dites.
Bah alors, c'est les deux.
C'est un choix.
Puis, alors, c'est un choix, mais ça va surtout dépendre de votre client. Pour ma part, je bosse beaucoup pour l'armée. Évidemment, quand j'ai un général 3 étoiles en face de moi, ou dernièrement, le père Légion à prendre en photo à 1h du matin, je vais le faire poser 4-5 fois avec la bonne pose qui lui va bien et qui va respecter l'institution, à la fois démontrer, je sais pas moi, la bienséance d'un général et le côté cool du légionnaire. En fait, il va y avoir une éthique déjà de travail pour que... le client me reprenne, mais surtout qu'ils servent l'institution. En fait, on est toujours, quand on bosse pour les armées, en général, on va servir les armées dans son sens. Donc, évidemment qu'il va y avoir une éthique de travail qui va se poser pour chaque personne pour laquelle je vais travailler. Mais encore une fois, là, je ne choisis pas mes sujets, je choisis mes clients. Donc, je choisis de travailler pour des militaires, je choisis d'aller prendre en photo des généraux, des colonels, je ne sais pas moi des choses. Évidemment, je vais avoir une éthique de travail pour les placer au mieux et servir leurs intérêts avec les miens. Dans le mariage, c'est exactement la même chose. Ça doit être un reportage. Je sers mes clients avant tout. Et ne faisant pas d'événements de type manifestation d'aucune sorte, je ne vais jamais être amenée à choisir de photographier quelque chose que je ne vais pas servir moi-même.
Oui, vous répondez à des attentes finalement.
Je réponds à des attentes. Et puis même quand on me demande une photo neutre, il n'y a pas longtemps, un journal m'a mandaté pour prendre en photo mon évêque. Ça reste mon évêque en fait. Donc je lui ai fait changer ses poses en mode « Non, monseigneur, la photo que vous vouliez, ça ne va pas être possible. » Vous avez l'air benet, posez plutôt comme ça et ça passera mieux pour les diocèses de France. Donc évidemment, il y a une éthique, mais surtout une volonté de rendre plus confortable et plus solennel ces sujets. Mais.
Oui, à ce moment-là, je me tourne parce qu'effectivement, en fonction du type de photographe, parce qu'il y a autant de. Il y a plein de métiers dans la photographie. Par exemple, je pense à vous, Catherine, vous êtes photographe, mais d'une façon très différente. Est-ce que vous appliquez, vous, une éthique dans votre façon d'opérer?
Ah, mais c'est vital. Je dirais que l'éthique, je le remplacerai par le mot respect. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qui prime. Je me rappelle, c'était à Alep en 2017. Il venait d'avoir une attaque à la bombe sur des bus qui transportaient des civils. Et j'ai eu accès à l'hôpital où il y a eu ces victimes de cette attaque, donc des enfants, des femmes, des hommes, et c'était très difficile parce que ce sont des gens qui ont subi un traumatisme, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont des cicatrices, mais on veut montrer l'événement pour montrer au monde ce qui se passe. Donc, on a cette responsabilité, c'est pas une responsabilité, mais on se met cette responsabilité de faire de bonnes photos fortes, mais en même temps, on doit respecter ces gens-là qui sont dans cette situation horrible et qui sont, qui sont dans une position où on peut les exploiter, exploiter ce malheur, cette détresse, et ils sont là, ils ne peuvent pas bouger. Donc le respect prime, et j'ai réussi à faire des photos. Il y a une en particulier, c'est un petit garçon qui s'appelle Ali Debes, et il a un regard absolument qui hante. Et c'est une de mes photos préférées, et ça touche beaucoup, beaucoup de personnes. Donc l'éthique, le respect à tout moment. Ça, c'est. Je pense que Barbara me rejoigne là-dessus.
Barbara, je vous laisse. Oui, allez-y.
Moi, je pense qu'en effet, toutes les trois, on est photographes, on n'a pas le même métier. C'est-à-dire que moi, j'essaye de. Je cherche, étant maman de 3 enfants, je me mets un peu au vert du reportage, en tout cas à l'étranger et tout, et j'essaie de trouver des clients. Et en effet, il y a certaines prestations où on a un cahier des charges. Alors moi, je ne mets pas le mariage là-dedans, parce que le mariage, en fait, c'est un reportage. Et il y en a d'autres où il n'y a pas de cahier des charges. Et moi, je pense, je vois ce qu'elle veut dire, Catherine. En fait, mon respect et mon éthique, c'est que que la photographie soit forcément belle et de respecter la dignité de la personne. Et par exemple, donc j'ai, grâce aussi à SOS, je suis partie un mois en Égypte auprès des chiffonniers du Caire. C'est quand même des gens qui trient des déchets toute la journée. J'ai pris des photos absolues. Enfin, en fait, moi, je recherche le beau en permanence. Et j'ai des vieilles dames édentées qui sont en train de trier du plastique et des ordures ménagères. Et les photos sont belles parce que je pose vraiment un regard de respect et je respecte la dignité de la personne. Enfin, en fait, l'éthique, normalement, elle s'impose à nous quand on photographie. De toute façon, quand on photographie, on trouve ça beau, même quand la scène est terrible. C'est-à-dire, et en fait, c'est nécessaire aussi. Je pense que Catherine, les photos que tu as faites de ce petit garçon, elles sont nécessaires. C'est du témoignage et tu respectes cet enfant parce que malgré la douleur, le sang, c'est beau. On ne fait pas du gore. J'ai connu, moi, le Anthony Lalican qui a disparu en Ukraine dernièrement. Il faisait des photos de blessés ukrainiens opérés. C'était de la charpie, mais ces photos sont absolument sublimes et nécessaires. Et les chiffonniers du Caire, il y avait des ordures partout, ça sentait très mauvais. Et les photos que j'en ai sorties sont des tableaux. Alors, je ne sais pas si les gens mettront ça chez eux, mais moi, quand je les regarde, ça fait un peu le melon, mais en fait, j'aime beaucoup le côté... C'est là où je suis assez... Moi, c'est compliqué pour moi de me remettre à la photo avec des clients autres que des mariés. Un client corpo, je vais avoir plus de mal parce qu'en effet, il faut composer. Il faut mener son sujet. Alors que quand on est en reportage, on mène pas le sujet. Le sujet, il s'impose à nous et nous, on choisit de le prendre. On choisit le moment où on le prend en photo. Mais sinon, la spontanéité, elle est. Pour moi, le secret, c'est la spontanéité, la beauté qu'on voit dans la personne. D'où le fait que d'ailleurs, nous ne sommes pas neutres par notre sensibilité. Et après, voilà, la neutralité, c'est on choisit ses sujets. C'est sûr que moi, j'ai voulu faire infiltrer les Antifa pour faire des photos d'eux parce que je trouve qu'ils ont quand même un style. Voilà, c'est pas mes copains, mais ils ont un style et ça se photographie, c'est esthétique. Il y a des choses qui peuvent être esthétiques. Enfin voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup, moi, je suis assez partante pour que Anne me donne quelques cours pour répondre à un cahier des charges. Et ça, je ne sais pas le faire. Parce que pour l'instant, c'est la tête et le cœur reliés et l'œil qui photographie ce que je trouve de beau. Et voilà, aussi atroce ou moche que ce soit-il. Que ce soit des déchets en Égypte ou un petit enfant ensanglanté. Voilà, c'est voilà ce que je peux dire. J'ai répondu à la question ?
Oui, très bien, oui.
Merci, je suis passionné.
Et donc, en fait, pour du coup, je pense qu'on a on a quand même bien brossé le sujet, même si on pourrait en parler pendant des jours. On parlait d'un sujet qui était, en fait, aujourd'hui, la multiplication de la photo partout. Aujourd'hui, on peut même plus, on le voit, de toute façon, parfois, c'est très pratique. Hein. Dans l'affaire Quentin, on a eu, dans les heures qui ont suivi, une vidéo des barbares qui l'ont tabassé, prise par un voisin immédiatement. Parfois, c'est bien parce qu'on a un souvenir d'anniversaire qu'on pensait ne pas voir, mais il y a oncle Thierry qui a pris une photo sans qu'on s'en rende compte et c'est toujours sympa à retrouver. Mais du coup, il y a une multiplication. Parfois, c'est des pellicules de milliers de photos sur nos téléphones qui servent absolument à rien et qu'on ne va jamais regarder. Aujourd'hui, est-ce que la photo que vous produisez, vous, c'est vraiment quelque chose qui est en voie de disparition ou au contraire, qui est quelque chose qui devient rare et précieux ?
C'est les deux. Je dirais parce qu'à la fois, on va mêler une information dans un flot d'informations continues et la qualité d'une information photographique n'est pas forcément dans la qualité visuelle de la chose. C'est un vrai débat qu'il y a dans la photographie de mariage, par exemple. Est-ce que la photo smartphone dégueulasse de l'oncle Roger à la sortie de messe va valoir moins que la photo que je vais mettre avec le bon boîtier, la bonne focale et les bons réglages ? Bon, en fait, la réponse est non, parce que l'oncle Roger, il va pleurer dessus. Lui, il va l'envoyer dans la seconde. Elle sera sur son téléphone toute sa vie. Et dans 20 ans, il pleurera encore dessus. Alors que la mienne, il y aura sûrement dans la galerie des mariés, dans un album. Et au final, l'oncle Roger préférera toujours la sienne. Donc la valeur sentimentale du souvenir a une valeur énorme par rapport au travail professionnel. En revanche, qu'est-ce qui va marquer les générations, aller dans les petits-enfants des mariés et qui va au final témoigner d'une histoire, ça sera peut-être beaucoup moins la photo de l'oncle Roger. On voit d'ailleurs très rarement des photos amateurs du 19e siècle ou des débuts du 20e siècle, alors qu'il y en a eu énormément. Pourquoi ? Parce que ce sont les très bonnes photos qui ont marqué l'histoire et qui vont rester témoins des scènes. Après, des bonnes photos et des bons photographes, il y en a de plus en plus. Et bah ça, c'est une chance en fait. Donc, est-ce qu'on est voué à disparaître? Non, je ne pense pas. De plus en plus de monde se disent photographes, savent le faire de mieux en mieux. Tout l'intérêt d'ailleurs d'une école de photo, c'est que chaque personne lambda puisse sortir un appareil et faire les photos les plus qualitatives possibles. Si ce sont des personnes qui vont dans le même but que moi, on va bien s'entendre. Et en général, c'est le cas dans mes élèves parce qu'on est une école confessionnelle, c'est-à-dire catholique, le but étant de faire rayonner l'image du Christ, de la foi et de notre monde à l'international. Plus on a des photos qualitatives qui vont marquer l'histoire et faire la différence avec la masse d'informations, et mieux on se porte. Donc, à la fois, bah, la masse d'informations est cool parce que, enfin, cool, elle est heureuse parce que elle va témoigner d'une histoire de plein de points de vue différents et chaque chose a une valeur. Évidemment, c'est une menace pour les photographes et en même temps, bah, toute cette concurrence nous porte à être meilleurs. Ça nous pousse à nous former, à que chaque personne dise, bah, moi, je veux être le photographe qui fait la différence, amener des meilleures choses. Ça amène des élèves, ça amène des gens à avoir soif du beau et bah, à se former de plus en plus à produire des événements, enfin à produire des témoins de l'événement de plus en plus qualitatifs. Donc, oui pour les deux.
Les deux, mon général.
Les deux, en général, exactement. Pourquoi choisir?
Oui, bah ça, si c'est pour, si c'est pour nous envoyer de la beauté, je pense que c'est ce dont on a besoin. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski, je crois bien. Écoutez, bah, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez réagir, Barbara, puis Katharine?
Je voudrais rappeler quand même que bon, c'est bien la technologie. C'est vrai que moi, ça, c'est pas que ça m'inquiète, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de photographes. Il faut pas oublier que la qualité d'une image et les boîtiers super super, ça fait des très belles photos qualitatives. Mais j'ai toujours dit moi que l'appareil ne faisait pas le photographe et que la sensibilité et la technique. Enfin, bon, moi j'ai appris la technique. Je pense que j'avais la sensibilité avant et après j'ai mis la technique au service de ma sensibilité. Mais d'avoir un appareil photo super, enfin, à 5000 balles avec des pixels extraordinaires, ne fait pas forcément de vous un bon photographe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la sensibilité, enfin, dans la tête, et il peut aussi avoir des photos très lisses, très plates. Alors, c'est pas pour critiquer mes confrères, mais en tout cas, dans ce marasme de énormément de photographes, il y a quand même un tri à faire. Enfin, voilà, je tiens à le dire. Attention à la nouvelle technologie qui fait de nous tous des très très bons, comme en vidéo, enfin voilà, comme en. Vous avez compris ce que je voulais dire?
Oui, très très bon, très propre,
Moi,
mais
je
très
vois des
plat.
volontaires à qui on confie des appareils photos sur le terrain du jour au lendemain sans explication et sans formation. C'est une catastrophe.
Oui,
Et
c'est pas
Anne-Laure,
aimé.
que vous connaissez tous, s'en arrache les cheveux.
Bonjour Anne-Laure, salutations, ça fait longtemps.
Katharine, le mot de la fin?
Oui, bah, pour rebondir sur cette histoire d'appareil photo, oui, il y a l'anecdote du photographe Joël Meyerowitz qui a fait toute une série après les attaques du 11 septembre en 2001. Il était en train de photographier avec un tout petit Leica. On lui a interdit, la police a dit non, 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 vous n'avez pas le droit, monsieur. Donc là-dessus, il demande l'autorisation, il balance son Leica. Et il prend la chambre, 4-5 inches, gros appareil, avec trépied, avec le drap noir sous lequel on doit se mettre. Et là-dessus, il fait des photos. Il fait, je ne sais plus combien de clichés, mais il fait un travail remarquable avec ça. Mais il a choisi l'appareil pour la gravité de l'événement. Et donc, Barbara, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que l'appareil. Mais bon, il a fait une marche, un pas en arrière. Il a pris une technologie antérieure.
Oui, on
On
choisit
a
son appareil. Je
pas
comprends ce que tu veux dire. Le
une.
problème, c'est qu'il y a beaucoup de photographes. Enfin, en fait, il faut pas se dire que la technique, la nouveauté permanente fait de toi un bon photographe. C'est ça que je veux dire.
Oui.
Et en effet, tu choisis ton appareil. Je te rejoins.
Oui, absolument. Oui. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus pour faire ce pas. Vers des technologies antérieures pour donner plus d'âme, plus de richesse, plus de profondeur à l'image et oublier un peu cette perfection. Même si pour certains boulots, pour le mariage par exemple, il ne faut pas d'imperfection ni d'erreur. Donc là, oui, mais.
Mais quand bien même, Catherine, en fait, pour le mariage, il y a des erreurs. Enfin, tu vois, ça reste un reportage Moi, je voudrais juste dire un dernier truc là. Pour moi, la photo
oui,
doit être au service de la vérité.
Pour conclure.
On doit être au service de la vérité. Voilà.
Oui, oui. Absolument.
Donc pas trop de perfection, pas trop de retouches. Enfin, la vérité.
Oui, oui.
Voilà. En fait, c'est un peu mon cheval de bataille, ça. Pardon, Catherine, oui. Je te laisse le mot de la fin.
Non, 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 mais je suis entièrement d'accord. Quand je suis partie d'ailleurs en Afrique du Sud pour faire mon reportage sur les blancs africains, on m'avait demandé ce que j'allais faire là-bas. Et j'ai dit, j'espère rapporter la vérité. Voilà, donc c'était exactement ça, oui.
Parfait. Mais écoutez, merci à vous. C'était un débat d'une extrême qualité, quelque chose qu'on entend rarement sur les ondes et je pense qui vraiment va toucher nos auditeurs qui sont dans cette émission, en tout cas particulièrement attachés à ce qui fait l'âme européenne et notamment l'art et les arts et donc la photographie. Merci à tous. Guillaume Antoine, je ne sais pas si on a un bobino.
Oui, bah écoutez, merci à toutes les trois d'être intervenues sur ce sujet. C'était très intéressant et ça met un petit peu de légèreté et ça nous rappelle que la beauté existe aussi malgré les actualités un petit peu tristes. Effectivement, on écoute un bobino, on fait une brève pause musicale et on revient juste après pour la deuxième partie de l'émission.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs, nous sommes de retour dans le Libre Journal de l'Occident pour la deuxième partie de l'émission où nous allons parler de la mort tragique de l'assassinat politique de Quentin le 12 février dernier par la racaille Antifa. François-Xavier, je vous laisse présenter nos invités avec qui nous allons traiter ce sujet.
Bien sûr. Alors, donc ce soir, nous recevons Maître Pierre-Marie Bonneau, avocat pénaliste bien connu de nos ondes et qui connaît, qui en plus d'être pénaliste, disons-le, a une longue, longue expérience militante. Et comme toute personne de nos idées qui a une longue expérience militante, a bien fréquenté plus d'une fois nos camarades Antifa et connaît parfaitement bien leur méthode, malheureusement. Je pense qu'il en a fait condamner plus d'un d'ailleurs, ce qui sera une médaille sur sa robe à la Libération. Bonsoir Pierre-Marie.
Bonsoir.
Et avec nous également F. Tessier, donc, qui est porte-parole de la cocarde étudiante et qui est également vice-responsable de la cocarde étudiante à Lyon. Bonsoir Eve.
Bonsoir.
Donc ce soir, donc, pour, toujours dans cette émission, nous animons avec Guillaume Antoine et moi-même, François-Xavier Jiquel. Et donc nous allons commencer, ben, on va rentrer dans le dur. Maître Bonneau, vous avez suivi un petit peu les dernières évolutions du parquet, ou on reste encore dans un flou un peu généralisé, et on a du mal à rentrer dans le détail sur cette affaire.
Alors, je n'ai pas tellement suivi les dernières évolutions du parquet. J'ai entendu que les faits sont poursuivis sous la prévention criminelle d'homicide volontaire, c'est-à-dire pas de coup mortel, mais je n'en sais guère plus parce que j'ai eu une journée assez chargée professionnellement et je n'ai donc pas eu vraiment le temps de m'y intéresser plus que cela.
Très bien, juste pour on va pas, elle a quand même la spécialiste de Lyon qui est avec nous sur le plateau, puisque FTC, vous, alors moi de ce que j'ai compris en parlant avec les protagonistes, moi, j'étais militant à Lyon il y a quelques années, mais le schéma a un peu changé. Les étudiants de l'IEP sont pas forcément les personnes les plus violentes des milieux d'extrême gauche, et en fait c'est souvent des personnes qui viennent de l'extérieur, notamment de Lyon 2, mais aussi d'autres campus alentour. Qu'est-ce qui se passe exactement à Lyon? Qu'est-ce qui s'est passé ce terrible jour de l'assassinat de Quentin dans la capitale des Gaules?
Alors, en fait, donc il y avait le groupe militant de Némésis qui arrivait en protestation en brandissant une banderole de manière assez pacifiste en contestation d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po. À la suite de ça, des militants antifa se sont mobilisés contre le service d'ordre, donc ceux qui étaient là pour assurer la sécurité de l'action de Némésis. Et en fait, ils sont intervenus avant même que, enfin, en parallèle de l'action, donc voilà, pour attaquer littéralement ce service d'ordre qui ne faisait absolument rien si ce n'est assurer la sécurité des militantes qui étaient sur place.
Et rappelons-le, parce qu'en fait, ça a été un peu moins médiatisé, mais dont les militantes se sont elles-mêmes fait agresser. Et on a vu ces terribles images la veille d'apprendre la terrible nouvelle pour Quentin, mais qu'une militante de Némésis se faisait étrangler, jeter au sol.
Oui, c'est ça.
Pour déployer cette banderole pacifique devant Sciences Po.
Oui, complètement. Complètement. Les manières pacifistes sont de notre côté et on voit bien la violence qui est employée de manière assez constante, assez régulière à gauche. C'est extrêmement choquant de voir qu'aujourd'hui une femme qui a des idées de droite peut se faire étrangler et se mettre au sol alors qu'elle exprimait un simple désaccord. Voilà, c'est extrêmement troublant et très inquiétant pour la suite.
Oui, d'ailleurs, c'est pas la première fois que les filles de Némésis se font agresser par les antifas en manifestation. Ces gens qui se revendiquent évidemment de toutes les vertus et notamment de la défense des femmes, hein, ce qui est évidemment une énorme farce. Ils ne défendent absolument pas les femmes, évidemment, ils les détestent. Ils usent bien sûr de la violence contre elles. D'ailleurs, ils usent de la violence contre les femmes, ils usent de la violence armée contre des gens non armés. Et ils sont également très souvent en surnombre. C'est extrêmement classique notamment dans les manifestations, de voir les antifas tomber sur un militant identitaire ou patriote qui tout d'un coup se retrouve isolé. Et tout d'un coup, 10 antifas vont lui courir après. Beaucoup en font les frais. Vincent Lapierre en a fait les frais plusieurs fois. Il a dû courir dans Paris poursuivi par 15 antifas qui voulaient lui faire la peau. Voilà, donc il faut rappeler que... Alors évidemment, il y a... des militants d'extrême droite qui peuvent vouloir faire le coup de poing à l'occasion, mais c'est une violence tout à fait différente, et je ne crois pas qu'on a pu voir l'équivalent à droite d'agression en surnombre et de cette nature-là. Alors,
rappelons que c'est quand même une doctrine chez eux. Il y a un culte de la mort à gauche qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que je veux bien qu'on accuse l'extrême droite, tout ce que vous voulez, les nationalistes, les identitaires. En fait, on s'en fout de terme à placer là-dessus aujourd'hui. C'est plus le débat. Je veux bien qu'on nous accuse de tout et n'importe quoi. J'invite, alors apparemment, d'après nos opposants, le paroxysme de ce qui se fait chez nous, c'est le CNFM. Alors, j'invite tous les observateurs qui veulent le voir à aller au CNFM et à essayer de trouver une seule pancarte sur tout ce que l'extrême droite fait de plus viril aujourd'hui, on va dire, et quand je dis viril, je parle viril dans l'engagement, pas dans le sexe des personnes qui tiennent les pancartes. Et j'invite nos contradicteurs à essayer de trouver une seule pancarte haineuse dans la manif la plus virile et la plus musclée de l'extrême droite. Alors que vous allez dans n'importe quelle manif de gauche aujourd'hui, que ce soit sur des questions économiques, vous allez tomber sur des pancartes à foison. Tuons les actionnaires, tuons les patrons, tuons les riches, tuons les fachos, tuons tout ce que vous voulez. Des manifs, des contre-manifs ou des manifs sur la question de la vie, sur des pancartes qui se moquent ouvertement de l'avortement, de la vie, etc. Si Marie s'était fait avorter, on n'aurait pas tous ces emmerdements, etc. Des sacrilèges, de la haine, une promotion de la culture de la mort, sur l'euthanasie, on y retourne une deuxième fois. Et en fait, c'est absolument constant. Et en fait, c'est récurrent, c'est permanent, c'est très visible. Vous avez même des politiciens de haute volée qui n'hésitent plus à dire aujourd'hui à la gauche de LFI et encore. Qui n'hésite plus à exprimer ce genre de propos violents. Jean-Luc Mélenchon appelait dans un meeting à aller scalper les militants pacifiques qui étaient venus protester pendant son meeting. Donc en fait, c'est une violence et des appels à la violence qui sont absolument récurrents et c'est intrinsèque à ce milieu-là. J'essaie de réfléchir à 40 ans de diabolisation de Jean-Marie Le Pen. Il me semble pas, je pense que le pire du pire du pire qu'il est sorti, c'est de te faire courir le rouquin à quelqu'un qui venait de l'attaquer. À part ça, j'ai jamais entendu Roger Olyndre, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Bruno Maigret appeler à massacrer des opposants. Et encore une fois, c'est les personnes qu'aujourd'hui on fait passer pour les plus radicales. Et chez nous, j'en terminerai là-dessus, ce sera la seule parenthèse que je ferai en dehors de mon rôle de présentateur, mais pour avoir été militant à Lyon, il y a une violence intrinsèque à ce milieu, ça sort dans la presse, on ne va pas le nier. Maintenant, qui de l'œuf et de la poule a commencé le premier, c'est impossible. On peut faire une espèce d'étude sociologique d'un doctorat, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui malheureusement sera toujours là, puisque je condamne totalement la violence en politique qui nuit au débat sans lequel on serait déjà arrivé au pouvoir depuis bien longtemps. Et en fait, cette violence, certes, peut-être que quelqu'un l'a commencé un jour, mais aujourd'hui, pour témoigner de ce qui se passe dans les rues, moi j'étais militant nationaliste visible. C'est un certain âge, ça se voit, on est là, on revendique. Et pourquoi est-ce que. Mais je parle simplement d'un polo Fred Perry et de basket à trois bandes, hein. Pas de trucs provoquants, mais quelque chose qui nous identifie dans la rue. Eh ben, je peux vous dire qu'il faisait bon de sortir à deux ou trois parce qu'on savait que nécessairement, en allant à la fac, en allant prendre un verre avec des amis, on allait nous tomber dessus et que ça allait nous arriver. Et à chaque fois, j'avais des amis qui n'étaient pas politisés, qui me voyaient arriver les arcades ouvertes et qui me disaient « Mais pourquoi ça tombe que sur toi ?» Mais parce qu'il y a des gens qui nous traquent. Ce n'est pas de la malchance. Il y a des gens qui nous traquent, il y a des gens qui nous cherchent. Et j'ai jamais passé un samedi soir à aller errer sans but dans les rues de Lyon pour essayer de tomber sur un antifa pour lui pourrir sa soirée. J'ai mieux à faire de ma vie, en fait. À Lyon, je rencontrais ma... Je travaillais ma relation avec ma future femme. À Lyon, je passais des examens. À Lyon, je commençais à m'investir en politique dans un cadre purement républicain et démocratique pour essayer de faire gagner mes idées. J'avais pas que ça à foutre en plein hiver que de passer 3 heures à trouver un mec avec des lacets rouges ou des cheveux crasseux. C'est pas ma ma passion dans la vie, j'ai autre chose à faire. Ces gens-là nous connaissent tous. Ces gens-là nous affichent nos adresses, ou en sachant très bien ce qui va se produire, évidemment. Ils affichent nos adresses, nos noms, nos prénoms, les noms de nos parents, les noms de nos amis, les noms de nos employeurs, en sachant très bien ce qui va se passer. Nous, bon, dans l'affaire Quentin, c'est sorti assez rapidement, mais nous, ces gens-là, on ne les connaît pas. On n'a pas que ça à foutre que de passer nos journées sur Internet à épier ces cas sociaux pour savoir comment ils s'appellent, où ils habitent, ce qu'ils font dans la vie. Ce n'est pas nos sujets. On a vraiment autre chose à faire. Et ces gens-là nous traquent depuis des dizaines d'années. C'est quelque chose, et je passerai la parole du coup, je re-rentre dans mon rôle, je reprends ma casquette d'animateur, je passerai la parole à Pierre-Marie Bonneau pour nous faire un peu l'histoire de ces mouvements violents dans la politique française. Mais ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, on découvre ça, on nous dit « Oh, c'est un symptôme de l'ensauvagement de la société ». Mais non, 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 non. L'arrivée d'Afghans, il y a 3 ans, sur le territoire français, qui nous tranche en deux pour une pièce d'un euro, alors que d'autres ethnies arrivées un peu plus tôt nous tranchaient en deux plutôt pour un mauvais regard ou une insulte, voilà. ça évolue. Là, il y a un ensauvagement, c'est vrai. Mais sur les antifas, ils ont toujours eu le même degré de violence. Et je me souviens, et Pierre-Marie, encore une fois, nous en parlera, j'arrête là, mais je me souviens d'anecdotes de nos anciens qui nous racontaient les années 70, les années 80, où ça se tirait des boulons à coups de fronde en tir tendu dans des affrontements, où il y avait des boules de pétanque qui étaient jetées, des agressions à la barre à mine. On se souvient de nos grands anciens du Front National qui se sont fait assassiner au fusil de chasse pendant qu'ils collaient des affiches. Donc en fait, non, la violence elle ne réapparaît pas, ou elle réapparaît peut-être, mais elle est là depuis des décennies. Et ces gens sont haineux, et ces gens l'ont transmis de génération en génération, puisqu'en plus, dans le milieu nationaliste, généralement, il y a peu de nationalistes fils de nationalistes. C'est une vocation qui naît souvent à la génération suivante. Et bien dans le milieu antifa, c'est pas ça. C'est vraiment des bourgeois, fils de bourgeois, qui se transmettent la haine de tout ce qui est bourgeois, fils de bourgeois, d'héritage philosophique marxiste, même souvent léniniste, et qui se transmettent cette culture de la violence politique et physique de génération en génération. Bon, j'arrête de trop parler, j'ai expliqué ce que j'avais sur le cœur depuis la mort de Quentin, et je transmets à Maître Pierre-Marie Bonneau la charge de s'exciter à ma place sur les ondes de Radio Courtoisie.
Alors, merci pour cette vive et sensible présentation. Je vais essayer d'être beaucoup plus calme, peut-être parce que je ne crois pas beaucoup en la démocratie, en la République et en beaucoup d'autres concepts particulièrement abstraits. L'antifascisme est intrinsèquement quelque chose de violent. Nous avons vu dans les rapports entre, j'allais dire, ce qu'on appelle généralement la droite et l'extrême gauche, plusieurs périodes fort différentes. Différentes parce que appartenant à une histoire politique différente. Initialement, au début du XXe siècle, la révolution venait de gauche. Les révolutionnaires étaient de gauche. Ils avaient pour ambition de ficher par terre un ordre établi qu'il jugeait à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, injuste. Dans ce cadre-là, ils étaient révolutionnaires, mais ils n'étaient pas anti. Ils étaient simplement révolutionnaires visant la destruction d'un ordre établi. À partir du début des années 20, de la période de l'entre-deux-guerres, les choses ont changé. Puisque au-delà de ce qu'on peut appeler le vieux système des pays d'Europe, souvent monarchique, parfois républicain, et qualifié de réactionnaire et injuste par la gauche, sont apparus ce qu'on a appelé les régimes autoritaires, ce qu'on a appelé parlement les fascistes, bien que les antifas s'appellent antifa. De simples révolutionnaires, c'est-à-dire opposants à un régime qu'ils considéraient comme injuste, sont devenus des opposants au fascisme, c'est-à-dire à une révolution qui, elle, ne venait pas de gauche, ne venait peut-être pas entièrement de droite, mais venait de la tradition et de l'amour du pays. Après la Seconde Guerre mondiale et la défaite des fascismes et l'occupation des pays européens, soit par les alliés occidentaux, soit par l'Union soviétique, le communisme est redevenu une espèce d'idéologie pour écraser l'injustice prétendue du système en place, du système dit capitaliste en place ou impérialiste, souvenons-nous de toute la rhétorique marxiste du Parti communiste et des mouvements plus marginaux, trotskistes ou anarchistes, des années 60. Il n'y avait pas d'antifascistes, il y avait des communistes et des gens de droite qui combattaient le communisme, considérant que le communisme, ben, c'était quand même quelques centaines de millions de morts et qu'on ne pouvait que difficilement faire l'économie de ce qui est quand même un crime assez monstrueux.
Ah, Maître Bonneau, on va reprendre. La technique est en train de nous dire que le son est mauvais.
Ah.
Ils vont essayer de vous appeler immédiatement pendant que ça se règle. FTC, est-ce que vous, avec votre expérience, moi je connais un peu la cocarde parce que je respecte énormément le travail que vous fournissez partout en France. J'ai pu l'observer avec Édouard Bina, qui est quelqu'un que j'admire énormément pour son engagement. J'imagine que des anecdotes de. Parce qu'en fait, initialement, vous, votre objectif, c'est de vous faire élire aux élections étudiantes pour changer les choses pour les étudiants et pour changer les choses pour le mieux. Initialement, c'est un objectif qui est totalement démocratique et totalement pacifique. Comment ça se passe concrètement dans les faits?
Alors déjà merci pour tout ce petit soutien qui est très important pour nous parce qu'en effet c'est pas facile au quotidien. On est un mouvement qui se développe très rapidement et qui fait extrêmement peur aux mouvances de gauche, aux élections, donc aux périodes de crise surtout. C'est vraiment on arrive en ayant cette certitude que on va avoir une confrontation et si elle n'est pas physique, elle est pour le moins orale et assez violente dans les faits, dans les mots. Et donc nous, ce qu'on subit, c'est beaucoup de diabolisation de nos idées. C'est ce qui nous bloque au quotidien. On véhicule des idées qui sont totalement légitimes, des idées de bon sens. Pensé par les étudiants pour les étudiants. Et donc c'est vrai que se retrouver diabolisé pour juste promouvoir la priorité nationale, toutes ces choses, toutes ces idées de notre programme, c'est complètement absurde puisque aujourd'hui on représente, on le rappelle, la majorité des pensées nationales. Donc c'est un programme qui est légitime, un programme qui est nécessaire. Si on ne le représente pas, personne ne le représente. Et si on ne le représente pas et si on ne se bat pas sur le terrain des élections, on va laisser la gauche empiéter sur tout le terrain. Et ça, c'est absolument inenvisageable, évidemment, puisqu'on se doit de représenter ces idées. Donc voilà, nous, on subit des agressions aussi sur le plan physique. Ça s'est passé à Lyon 2 quelques semaines avant le drame qui vient de se passer avec Quentin. Ça s'était passé bah, exactement de la même chose, comme vous l'avez déjà dit au début de l'émission, Lyon 2, donc sur le campus de Bron. C'est un campus qui est extrêmement gauche, vraiment gangréné par la gauche, qui a le monopole et qui. Enfin, les gens de droite se cachent, en fait. C'est une milice d'extrême gauche qui gouverne cette fac. Et donc, nos militants étaient arrivés pour tracter, donc pour présenter le programme. Pour présenter notre syndicat. Et ils se sont fait chasser au bout de quelques minutes par des antifas qui sont arrivés, qui auraient pu en venir aux mains. Voilà. D'ailleurs, on en est venu aux mains. Enfin, pas à nous, mais pareil, des gens qui assuraient notre sécurité, qui étaient là, en fait, parce qu'on sait que ce genre de cas, malheureusement, arrive. Donc, en fait, voilà, ils étaient là pour les repousser. Et si ce n'était pas eux, bah, ça aurait été nos militants directement. Des gens qui ne sont pas du tout configurés pour ce genre de situation, des gens qui veulent juste militer et qui sont étudiants comme tous les autres étudiants en fait, et voilà, qui se battent juste pour un programme on ne peut plus légitime.
Est-ce que l'université met en place des choses pour assurer la sécurité des étudiants comme vous, qui militent ou non d'ailleurs, parce que les antifas évidemment agressent d'autres militants, mais pas que. Comment se situe en fait le système de l'université par rapport à votre militantisme?
Alors, beaucoup de silence de la part des universités, beaucoup d'asymétrie aussi dans la manière de traiter la sécurité des militants et des syndicats. On retrouve évidemment un quasi monopole de l'aide aux syndicats d'extrême gauche. Nous, on est vraiment freinés et handicapés, notamment en période d'élection, où nous, on n'a pas pu présenter notre programme convenablement, alors que l'extrême gauche a pu faire des tours d'amphi, etc., sans impunité, alors que nous, on a clairement été freinés à l'entrée. Et dans le cadre des actions militantes, c'est pas rare que on nous demande de partir du campus pour ne pas gêner les autres, en fait, alors que d'autres syndicats sont présents sur place pendant des minutes, des heures, et la sécurité ne dit absolument rien. L'administration ne s'en indigne absolument pas. C'est arrivé qu'une fois on tracte sur un campus d'université, et que une pseudo-représentante de la préfecture nous vienne nous voir en nous disant qu'on n'avait pas le droit de tracter là, alors que on connaît nos droits et on sait qu'on a le droit. Donc voilà. Donc quand le droit est mobilisé, c'est vrai que c'est très embêtant, parce que utilisé à mauvais escient.
Oui, c'est vrai que c'est peu étonnant en même temps, hein, le milieu universitaire est gangréné par le marxisme depuis bien longtemps, trop longtemps.
Bah d'ailleurs,
Et
Pierre-Marie Bonneau, vous allez pouvoir
il va pouvoir nous éclairer là-dessus aussi, hein, je
nous éclairer
crois.
là-dessus, oui.
Mais je ne sais pas s'il est déjà avec nous, mais simplement pour compléter, le milieu universitaire est gangréné par le marxisme culturel. On pourrait, hein, ce depuis les années 70, hein, depuis De Gaulle. Et il ne faut pas croire que ce soit simplement parce que les universités sont investies par des marxistes, c'est le cas, mais il faut dire aussi que le manque de courage à droite pendant de longues années a fait que beaucoup se sont tués et beaucoup ont laissé faire et ont laissé prendre d'assaut ces universités par la gauche. Je pense à une université soi-disant de droite et catholique en Vendée qui avait fait profil bas lorsque des jeunes étudiants avaient fait une contre-manifestation lors d'une manifestation LGBT dans la ville dans laquelle ils étaient. Et l'université, loin de soutenir les étudiants qui n'avaient rien fait, hein, qui avaient simplement, qui étaient passés, qui avaient crié deux, trois slogans, il n'y avait eu aucune violence. Ils avaient eu suite à ça un procès qui avait fait que ils avaient été condamnés en première instance assez lourdement, certains à de la prison. Et l'université ne les avait absolument pas soutenus, bien qu'ils se disaient université catholique. Donc n'oublions pas aussi que la gauche n'est forte que de notre lâcheté. Et c'est aussi une des leçons que nous devons tirer dans cette affaire. Alors je vais laisser Pierre-Marie Bonneau continuer sur ce qu'il nous disait tout à l'heure.
Oui, très très rapidement, pour terminer ce que je disais tout à l'heure. Nous avons eu des périodes pendant lesquelles la gauche était révolutionnaire contre un régime, et d'autres périodes pendant lesquelles elle luttait parce qu'elle avait perdu pied. Et il faut dire que depuis la chute de l'Union soviétique, le vrai visage du communisme est apparu, et la gauche s'est rétractée sur l'antifascisme. C'est-à-dire que la gauche a cessé de présenter un projet politique à la société. Elle se contente de lutter contre un danger fantasmé qu'elle appelle le fascisme. Alors évidemment, le fascisme, elle le fait commencer immédiatement à sa propre droite. Dans l'encyclopédie de l'Union soviétique, vous aviez le qualificatif appliqué au général de Gaulle, général fasciste. C'est cette mentalité de forteresse assiégée, de défenseur finalement d'un système, de mercenaire d'un système, qui, additionné à la vieille tradition de violence de l'extrême gauche, donne les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Il y a chez ces gens-là d'abord une haine fondamentale de la société, le communisme, le marxisme, ce sont quand même des systèmes politiques qui se construisent de façon très affirmée sur la haine de l'autre. Il y a des exploitants, des exploiteurs, il y a des exploités. Le monde ne trouvera la paix que tant tous les exploiteurs auront été égorgés. Point. Et on le voit, il y a dans la gauche une volonté de tout casser, de tout détruire. Pensons à la Révolution française et à ces foules hystériques dansant autour des guillotines. Pensons à la guerre d'Espagne et à ces fous furieux qui sortaient les religieuses de leur cercueil et refusillaient les cadavres en les posant contre un mur, etc., etc., etc. L'histoire de l'extrême gauche est jalonnée de massacres et est imprégnée de A à Z, non pas par l'amour du prochain, non pas par l'amour de la patrie, mais par la haine, parce que le système gauchiste est fondé sur la haine. Seule la haine est le vecteur qui permettra par la révolution l'accès de la société au bonheur. Dans l'international, il y a un couplet qui dit « Du passé, faisons table rase », et l'autre qui dit « Si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours ». Ce n'est pas que les corbeaux, les vautours, c'est eux qui définissent qui doit y appartenir. Et si on rajoute à ça que l'extrême gauche n'a plus de prolétariat à défendre, qu'elle n'a plus de révolution à faire, et qu'elle se contente donc de se rattacher à un système dont elle exalte toutes les tares, elle essaie de voir quelle ou quelle minorité totalement marginalisée, tout simplement parce que cette minorité doit être marginalisée dans une société normale, peut être défendue et portée au pinacle. Et ces deux profondes tares dans le chaudron de la sorcière, vous reluez un peu et vous avez d'Antifa moderne. Et qu'au profil, il aime tout ce qui est laid, il n'aime pas la pauvreté, il aime la laideur, il n'aime pas le pauvre pour lui permettre de s'élever, il l'aime parce qu'il est pauvre et qu'on doit le maintenir dans cette espèce de haine d'autrui. Ils sont basés, construits là-dessus, et on en voit le résultat effectivement quand dans la rue. Ça veut dire qu'une manifestation d'extrême droite, une manifestation d'extrême gauche, ça se distingue très vite, et juste après. Dans une manifestation d'extrême droite, vous passez après, il n'y a pas un papier gras par terre. Dans une manifestation d'extrême gauche, vous passez après, il n'y a plus un mobilier urbain debout.
En effet, oui, c'est quelque chose qu'on constate systématiquement. J'aimerais continuer votre propos sur le l'idéologie de gauche et surtout le gros problème que nous avons aujourd'hui, qui est que cette idéologie qui devrait être absolument marginale étant donné sa nature, qui est nihiliste et qui est anti-humaine, et pourtant une idéologie qui a pignon sur rue en France et jusque dans les plus hautes instances. Dans cette affaire de Quentin, nous avons quand même une milice antifa qui est mise en cause, qui est la Jeune Garde. Cette milice qui est apparenté à un député quand même, qui est le député Raphaël Arnaud, ne l'oublions pas, député de la France Insoumise, qui est je crois un des fondateurs de la milice, qui en a été le chef ou qui a je ne sais plus quel lien avec, et en tout cas dont l'attaché parlementaire lui est membre, et son attaché parlementaire est mis en cause dans l'affaire de l'agression de Quentin, à tel point que son accès est désormais refusé à l'Assemblée nationale. Donc il faut quand même souligner qu'il y a deux choses différentes. Les médias aiment mettre sur le même pied d'égalité l'extrême droite, l'extrême gauche, jusqu'à preuve du contraire. Serge Ayoub n'est pas à l'Assemblée nationale et les dirigeants du C9M non plus, donc qui sont pourtant ultra-pacifistes, comme le soulignait François-Xavier tout à l'heure, dont les manifestations n'ont jamais entraîné aucune violence. Donc voilà, François-Xavier, si vous voulez réagir là-dessus, et nos autres invités.
Bah alors, moi, il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que il y a deux formes de violence, hein, parce que c'est vrai que la violence physique, c'est celle qu'on a vue s'exprimer la semaine dernière, qui maintenant ne fait plus aucun doute. Hein. Puis en fait, des images comme ça, il y en avait plein. C'est juste que celle-ci a mené jusqu'à la mort. Mais on sait tous. Moi, j'ai posté il y a pas longtemps des photos de moi en uniforme, jeune réserviste à l'époque où il y avait encore le droit d'être en uniforme dans la rue. On n'était pas en train de faire de la politique. Hein. On était interprète pour un événement international de l'armée. et regagnant ma voiture avec un camarade après l'événement en uniforme, sans signe distinctif aucun à part mes médailles et mes écussons. On s'est fait tomber dessus, c'était à Nantes, par 15 mecs de Notre-Dame-des-Landes qui nous ont dit « Vos potes ont bien fait de mourir en Afghanistan, maintenant ça va être votre tour ». Et on s'est pris des bouteilles de bière en pleine tête et on a dû se battre pendant 5 minutes à 2 contre 15. Jusqu'à ce qu'un patron de bistrot nous fasse passer à 3 contre 15, ce qui, face à des antifas, rétablit un peu la balance et nous permette de les faire courir un petit peu. Mais en fait, c'est constant. C'est, voilà. Et ça, c'est violence physique, on les connaît. Mais il y a d'autres violences sur lesquelles je voulais laisser Ève réagir. C'est qu'il y a des violences qui sont plus insidieuses. On a vu Frédéric Ballanche qui s'est fait virer de cours il y a 6 mois pour accuser d'être un sioniste, ce qui n'a absolument aucun sens. Moi, professionnellement, je travaille avec lui. C'est quelqu'un qui est particulièrement calé sur la question syrienne et la question irakienne. C'est un docteur et un professeur qui connaît ces endroits parfaitement. Je n'ai pas suivi toute l'histoire, mais parce qu'il a dû refuser de rentrer dans le discours totalement victimaire palestinien, en tout cas la récupération victimaire de la situation du pauvre peuple palestinien par les antifas français, qu'on l'a empêché de donner cours et qui s'est fait exclure de la fac. Il n'y a pas que ça, je parlais tout à l'heure de la dénonciation, de ce qu'on appelle le doxage, quand on donne vos adresses, vos contacts, le nom de vos amis. Ève, comment ça se traduit tout ça en fait à la fac? Parce qu'il y a un truc que vous avez dit qui est très intéressant, c'est qu'en fait, in fine, les étudiants ne sont que des étudiants qui sont là pour étudier. Ils veulent s'investir en politique, ce qui est un droit fondamental, j'allais dire constitutionnel. Mais en fait, on ne leur a jamais demandé d'être des guerriers et de monter baïonnette au canon pour aller défendre des idées qui, comme vous le dites, sont aujourd'hui partagées par tout le monde. Donc comment vous vivez ces persécutions en dehors des persécutions physiques, tout le reste?
Alors, comme vous l'avez expliqué de manière plus ou moins explicite, en fait, il y a vraiment une hégémonie culturelle qui est véhiculée par le marxisme universitaire, c'est un terme que vous avez employé, avec des liens directs entre la Jeune Garde, l'Union étudiante, l'UNEF, et en fait, tous se réunissent et s'organisent pour vraiment nous traquer, nous ficher, retrouver nos adresses, nos lieux d'études, nos horaires de cours. Donc, c'est vraiment une organisation très, très pointilleuse pour avoir toutes nos informations personnelles et tout ce qui est nécessaire pour nous intimider, nous faire peur, nous faire culpabiliser et, in fine, nous donner envie de ne plus militer et de ne plus agir pour nos idées. Donc, ça, évidemment, c'est ce sur quoi ils ont axé la principale majeure partie de leur temps, mais nous on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas, on protège au maximum nos militants qui sont des étudiants qui aimeraient aller en cours, qui aimeraient valider leur diplôme, qui aimeraient ne pas être impactés pour leurs idéologies une fois qu'ils rentreront dans la vie active, même à l'échelle universitaire, qui peuvent être impactés sur le plan social, sur le plan scolaire. Enfin, c'est vraiment un combat, le militantisme, parce qu'aujourd'hui, on sacrifie vraiment des choses, on prend des risques. Si ce n'est pas sur notre santé ou sur notre vie même, c'est au moins sur notre avenir. On ne sait pas, si l'employeur qu'on va vouloir, l'employeur chez qui on va vouloir travailler demain a notre idéologie ou pas. Et on sait très bien que nos idéologies aujourd'hui déplaisent et peuvent nous porter préjudice pour l'avenir. Et donc voilà, donc nous on essaye de rendre plus légitime notre combat qu'il l'est déjà, et en fait on essaye de contrer cette diabolisation dont je parle constamment, parce qu'elle est réelle, et à mon avis c'est ce pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a diabolisé des idéologies totalement saines et totalement légitimes au profit d'une extrême gauche ahurissante, qui crie, qui violente, et comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui casse tout sur son passage. Donc voilà, nous, on cherche à rassurer nos militants, les étudiants, et ne surtout pas rentrer dans ce jeu de violence. Jamais, on est très ferme là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup pour votre courage et pour votre militantisme, qui est absolument nécessaire en ces temps troublés. Nous arrivons à la fin de l'émission. Pierre-Marie Bonneau, je vous laisse conclure 2 minutes sur ce sujet et nous en finirons.
Oui, très très rapidement. La gauche est violente par sa nature. Par sa nature, et le marxisme être violent parce que c'est une idéologie fondée sur la haine, tout simplement. La haine de classe qui doit permettre de créer une société idéale. Par contre, il ne faut pas tomber dans les pièges que nous tend cette idéologie. J'ai entendu tout à l'heure parler de la question palestinienne. Il faut savoir dissocier plusieurs choses. La question palestinienne et les droits des Palestiniens, c'est légitime. Ceux qui ont créé l'idéologie marxiste, que je sache, n'étaient pas des Palestiniens, bien au contraire. Et de nos jours, on voit que les agitateurs de mai 68, je pense à Daniel Cohn-Bendit, ne sont sans doute pas sur la question palestinienne du même côté qu'une certaine extrême gauche. Donc il faut savoir dissocier là-dessus, ne pas tomber dans les pièges que nous tente l'adversaire, que nous tend l'adversaire. C'est dangereux et c'est une perte pour nous de légitimité.
Merci.
Ceci dit,
Oui.
nous sommes attachés à notre patrie, à la France. Les conflits étrangers n'ont pas à s'y exprimer, n'ont pas à y causer de violence. Nous ne devons pas être récupérés par personne. Nous devons avoir comme seul but, comme seule préoccupation, l'avenir des nôtres, de notre patrie, de notre jeunesse. Et c'est en ça que nous pourrons savoir que nous sommes réellement de droite, c'est-à-dire pour la droiture, pour le bien, pour le sens commun. Attention à ne pas tomber dans des pièges qui sont peut-être tendus par les antifas eux-mêmes, peuvent être des sirènes très très dangereuses pour la crédibilité de notre discours.
Merci beaucoup Pierre-Marie Bonneau. Guillaume-Antoine, le mot de la fin de la fin?
Oui, bah écoutez, merci FTC, merci Pierre-Marie Bonneau, merci à nos trois invités de tout à l'heure. Merci à vous François-Xavier pour cette saison que nous avons faite ensemble sur le Libre Journal de l'Occident. Chers auditeurs, comme je le disais au début de cette émission, c'est la dernière émission pour moi dans le Libre Journal de l'Occident. Je vous dis à bientôt, nous nous reverrons sur ces ondes ou ailleurs très bientôt. Beaucoup de projets en préparation et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse désormais entre les mains de François-Xavier et je vous salue, camarades.
Merci pour tout, Guillaume-Antoine.
D'entendre le Libre Journal de l'Occident dirigé par Guillaume-Antoine et François-Xavier Jiquel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 17 février 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.